Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Maugé.
Dans cette première émission sur Carlos Calatroni, notre chroniqueur Axel Maugé, auteur d'un essai qui s'intitule « Les élites argentines et la France » et qui est paru aux éditions de L'Harmattan, évoque sa rencontre avec ce psychanalyste, l'un des psychanalystes les plus connus d'Argentine et d'Amérique du Sud.
Psychanalyse et politique, Carlos Calatroni. Carlos Calatroni, l'Argentin qui m'accueille dans le hall de l'aéroport international de Buenos Aires, est l'un des psychiatres les plus connus d'Argentine. D'origine italienne, cet homme a de l'allure, il porte une fine moustache laquelle accentue sa distinction naturelle, il m'apparaît très attaché aux idéaux humains. Aussi m'entraîne-t-il avec un plaisir non dissimulé dans ce pays nouveau pour moi, symbolisé par les noms de Perón, Rubirosa, Gardel, Che Guevara, Fangio, Maradona, Borges et Ocampo, des champions, des violents, des révolutionnaires, des séducteurs, des politiques et des écrivains. On ne sait pas toujours que l'Argentine est le lieu de naissance de Che Guevara, sorte de frère jumeau de Trotsky. En vérité, ce personnage demeure assez énigmatique. Plusieurs étapes de sa vie échappent aux analystes. Cet homme d'action, je parle de Che Guevara, né en 1928, mort en Bolivie, les armes à la main en 1967, issu d'une excellente famille, a été marqué par une mère francophile qui l'initiera aux grands auteurs français. Ce médecin généreux, converti au marxisme sous l'influence de sa première femme Hilda Gadea, devient le principal lieutenant de Fidel Castro avant de s'engager à fond en faveur de la révolution mondiale. Refusant la domination des États-Unis, il se bat d'abord en Afrique, avant de revenir ensuite en Amérique latine. Ses ennemis américains le traquent finalement en Bolivie, le font prisonnier et l'exécutent. Nul doute que nous avons affaire à un personnage hors du commun, marqué par les théories de Freud sur la sexualité. Il est dommage que la plupart des livres sortis récemment sur lui n'éclairent pas plus sa vie sentimentale. Dans la voiture qui traverse les banlieues de Buenos Aires, Carlos Calatroni et moi faisons plus amplement connaissance. Mon hôte me raconte d'une voix émue l'histoire d'amour de sa famille pour la France. Elle remonte aux années 1930. À l'époque, sa mère, fille d'un chef de la rédaction de la Prensa, le Figaro, je pense, l'équivalent du Figaro en France, journal réputé de Buenos Aires, séjournait à Paris. Elle y rencontra son futur mari, lequel étudiait la médecine en Allemagne. Grâce à sa mère, Carlos Calatroni se mit à aimer la France. Aussi adolescent se retrouve-t-il naturellement au Collège National de Buenos Aires, fondé par les jésuites au XVIIIe siècle. Ah, ces jésuites, dictateurs géniaux des consciences dont Jean Lacouture a su raconter l'étonnante histoire en ses innombrables ramifications. Mais revenons pour l'instant à la petite histoire, celle du Collegio National, Collège National, laïcisé par la suite, agrandi par un architecte français en 1920, dirigé avec poigne de 1920 à 1940 par un recteur français, un certain M. Nielsen. Ce collège, m'apprend Carlos Calatroni, accueillait une population mélangée, confessions diverses, juifs et catholiques, milieux sociaux variés, pauvres et riches s'y frottaient. C'était l'école de la démocratie. Où que l'on aille aujourd'hui, l'influence jusque-là mondiale irrésistible de la France bute sans fin sur la date fatidique de 1940. De 1950 à 1957, mon hôte poursuit ses études en français. Autant dire que la formation humaniste l'a comblé, il garde un souvenir heureux de cette période de sa vie. C'est sur les bancs du collège qu'il a appris à aimer la philosophie, l'histoire, la poésie. Puis un jour, il s'est senti attiré par la médecine. Aussi, après avoir suivi des études en psychiatrie, est-il devenu psychanalyste, spécialiste de psychosomatique. Diplômé en 1964, il est nommé professeur de psychologie médicale en 1968. Grâce à lui, je découvre la fascination que les Argentins ont pour la psychanalyse. Ils considèrent que l'analyse est au cœur d'une thérapeutique générale. N'oublions pas l'angoisse créée au fil du temps par les formes de dictature, d'oppression, d'étouffement, ou au contraire par des structures éclatées, délirantes. Il existe même à Buenos Aires un petit quartier situé entre Norte et Palermo, ce sont deux quartiers, qui s'appelle Villa Freud. En ces lieux résident la plupart des analystes. Après la Seconde Guerre mondiale, Carlos Calatroni me raconte que 2000 analystes se sont affrontés dans des débats souvent passionnés, divisés en pro-viennois et pro-kleiniens. Ils ont lutté afin de garder un maximum d'influence jusqu'au moment où le gouvernement péroniste a condamné la pratique de la psychanalyse. Ceux qui n'avaient pas de formation de médecin durent alors soit s'inscrire à la faculté, soit être radiés de la liste des titulaires, soit encore émigrer en Europe, tels furent les choix. Par la suite, à partir de 1970, une gauche freudienne tentera bien de s'affirmer, mais elle sera à son tour pourchassée sous la dernière dictature. Plusieurs analystes périront, d'autres seront emprisonnés. Encore une fois, la majorité d'entre eux iront se réfugier à l'étranger. Le mouvement lacanien continue d'avoir des adeptes. Oscar Massotta, le disciple le plus connu, enseigna l'œuvre de son maître dans des groupes d'études. Je constaterai plus tard que Buenos Aires, ville si ouverte à la psychanalyse, sème dans son être comble de nostalgie. Très vite, j'ai senti que la diversité était au cœur de cette ville énigmatique, à cheval entre une Europe lointaine et une Amérique éloignée du modèle new-yorkais. Les jours suivants, je n'arrête pas d'écouter attentivement Carlos Calatroni, lequel m'introduit dans un autre univers. Il n'est pas si fréquent de rencontrer un homme qui aime autant la médecine que les humanités. S'il a choisi la médecine, c'est, me confie-t-il, d'abord par amour des malades. Ensuite, grâce à la psychiatrie, il a trouvé une dimension humaine extraordinaire. Son tête-à-tête précoce avec la littérature française lui a permis de réfléchir sur les problèmes les plus importants de l'existence. Quelques œuvres sont restées pour lui essentielles. « La peste » d'Albert Camus, livre poignant s'il en est, « Mort à crédit et voyage au bout de la nuit » de Louis-Ferdinand Céline et « L'œuvre au noir »« Opus negrum » en latin de Marguerite Yourcenar. Je ne peux m'empêcher de me souvenir qu'Hippocrate a été le premier médecin écrivain. Il est assez étonnant de penser que si la médecine n'a pas fait de progrès essentiels pendant de longs siècles, la littérature médicale a été, elle, d'une réelle richesse et a varié sur les époques et les civilisations. La plume, encore elle, et le scalpel ont souvent œuvré ensemble. Certains écrivains n'ont-ils pas d'ailleurs écrit pour se soigner ? Des écrivains fameux furent également tentés par la médecine, songeons à Rabelais ou Dante, ou plus près de nous, à André Breton ou Louis Aragon. Léon Daudet, qui fut recalé au concours de l'internat, publiera pour se venger un livre féroce, « Les Morticoles », une satire féroce des milieux médicaux. D'autres exerceront un peu avant de se lancer dans la carrière des lettres. À ce groupe appartiennent Michael Bulgakov, auteur au passage d'un livre merveilleux qui s'appelle « Le Maître et Marguerite », qui n'a rien à voir avec la médecine, mais enfin qui touche à la psychanalyse, Somerset Maugham et Conan Doyle. Il ne faudrait pas non plus oublier que Victor Segalen, médecin de la marine, soutint en 1902 une thèse de doctorat sur l'observation médicale chez les écrivains naturalistes. Il y étudiait l'œuvre de Huysmans, Maupassant et Zola. Georges Duhamel, fils de médecin, tirera de son expérience de chirurgien, officiant sur le front en 1914, un livre imposant « Vie des martyrs et civilisation ». C'est la médecine, dira-t-il, qui m'a imposé de la souffrance et de la mort, une idée non pas littéraire, mais véridique et majestueuse. Nul doute que Carlos Calatroni, pétri de ses nombreuses lectures, est habité par le sentiment de la faiblesse humaine. Ce réaliste rêve, j'en suis sûr, d'instaurer un nouvel ordre moral, le règne du cœur. Comme Tchekhov, il pourrait dire « La médecine est ma femme légitime, la littérature est ma maîtresse ». Que c'est joliment dit. Je comprends qu'il soit touché par l'œuvre dérangeante de Louis-Ferdinand Céline. Pour ce dernier, le monde n'est-il pas malade, contaminé, irrémédiablement pourri ? Animé par ce qu'il appelait sa vocation au malheur, il n'en assistera pas moins, souvent gratuitement les miséreux. Cette cour des miracles sera l'univers vrai de ses romans. Tous les livres de ces médecins écrivains ont énormément enrichi la réflexion personnelle de Carlos Calatroni. Parmi eux, il affectionne infiniment la peste. Livre qui incite à résister aux caprices ridicules de l'histoire et de la politique de bas étage. Pourquoi la peste en épargne-t-elle certains et pas d'autres? Bonne question. Jusqu'en 1960, rappelle-t-il, la plupart des ouvrages de médecine que l'on utilisait à Buenos Aires étaient écrits en français. Son père, même passé par l'Allemagne, lisait énormément dans la langue de Molière, ses professeurs aussi. Aujourd'hui, gronde Carlos Calatroni, les milieux médicaux sont envahis par le livre américain. Il s'en plaint, soulignant que la psychanalyse américaine n'a pas de profondeur, puisqu'elle est contrôlée par les statistiques qui règnent en maître. À part elle, point de salut. Au fil des années, mon hôte a assisté presque impuissant à l'abandon progressif du français, ce qui a provoqué l'affaiblissement lourd de conséquences d'une véritable aréopostale de l'esprit. Ne croyez pas que Carlos Calatroni sombre, comme certains, dans un anti-américanisme primaire. Non, il regrette simplement d'assister à une sorte d'effondrement du dialogue entre les cultures. Par exemple, sur les 70 professeurs en poste à l'hôpital de cardiologie de l'Académie nationale de médecine de Buenos Aires, seuls 4 d'entre eux parlent le français. Pas un, à sa connaissance, ne manie la langue portugaise, alors que le Brésil est à côté. L'allemand n'a pas d'influence apparente, pas plus que l'italien que tout le monde comprend, cependant. Résultat, l'anglo-américain de base caracole écrasant les autres langues et cultures. En plein cœur de Buenos Aires, à plus de 10 000 km de Paris, j'écoute cet homme insister sur le fait que l'effacement progressif du français dans son pays est inacceptable. Comment promouvoir le dialogue des cultures? Tout simplement en s'intéressant aux autres. Malgré l'effacement excessif du français parmi les jeunes générations, Carlos Calatroni constate que les milieux artistiques, plus que les milieux scientifiques, continuent d'honorer la langue et la culture française qui ont tant apporté à l'humanité. Si une partie non négligeable de l'élite argentine reste tournée vers la France, c'est parce qu'elle refuse l'univers du superficiel, la qualité compte heureusement pour elle. Quelle délectation de lire l'œuvre d'un Fernand Braudel ou celle d'un Georges Duby, auteur de livres denses, véritable biopsie, étonnant de psychologie, me confie Carlos Calatroni. Il évoque à présent avec un vif plaisir son maître Pierre Marty, médecin français mondialement connu, qu'il a accueilli de 1986 à 1989 à Paris en tant que stagiaire à l'Institut de psychosomatique. Il rappelle que Pierre Marty adorait l'Espagne, pays conquérant de l'Amérique du Sud avec le Portugal. Ce professeur de médecine, qui a longtemps été président de la Société de tauromachie de France, ne manquait pas d'impressionner. Il connaissait par cœur une bonne partie de l'œuvre de Victor Hugo. Un jour, au cours d'un entretien, il lui a appris que le beau-père de Victor Hugo avait suivi Napoléon en Espagne. Si la tragique aventure militaire impériale s'est en partie effacée de nos consciences, en revanche, grâce au beau-père de Victor Hugo, Pierre Marty s'est lui intéressé à l'Espagne, puis à la tauromachie, spectacle adulé par nul autre qu'Henri de Monterland de l'Académie française.
Vous venez d'entendre la première partie de cette émission consacrée à Carlos Calatroni. La seconde partie est disponible à l'écoute ou au téléchargement dans la médiathèque de Canal Académie. Pour y accéder, tapez Carlos Calatroni ou Axel Mauger dans le moteur de recherche de la page d'accueil du site canalacademie.com.